Bonsoir, des décodeurs de l'écho sur tous les fronts ce soir avec trois sujets. C'est vrai qu'on a eu du mal à choisir. Dans 20 minutes, on va s'interroger si Bernard Tapie peut être ruiné, donc, après la décision de la Cour d'appel de Paris, de l'objet de rembourser les 400 millions d'euros qu'il avait touchés lors de l'arbitrage du Lyonnais, donc, il y a quelques années. Un petit peu plus tard, autre question, est-ce que c'est le début de la fin pour la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, qui est victime, contre qui est lancée une procédure pour destitution. Et puis, dans un instant, l'homme de l'actualité aussi, c'est Mario Draghi. Mario Draghi qui allonge son programme de rachat de dettes, justement. Car ça marche, dit-il. Ça marche. Et heureusement qu'on est là, car la croissance est au rendez-vous. Prétend-il, Mario Draghi. Alors, une question pour démarrer. Grâce à la BCE, la croissance revient-elle? Est-ce enfin la reprise? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ah oui, ça fait beaucoup, beaucoup de sujets. On va démarrer tout de suite, justement. Est-ce que grâce à la BCE, c'est l'heure de la reprise? Avec nous, il y a Bernard Cadot qui est à la tête du grand réseau immobilier Orpi. Philippe Thiby qui est à la tête de son Pergamon Campus, son école pour dirigeants d'entreprise. Jean-Noël Vieille, directeur de la gestion chez 360 Xens AM. Alors, c'est vrai que ce sont des annonces qui ont été faites cet après-midi. Vous les avez suivies sur BFM Business, la BCE, qui rachète, vous le savez, depuis mars dernier, 60 milliards d'euros par mois d'obligations souveraines des États membres de la zone euro. Et Mario Draghi donc annonce une extension dans la durée donc de son programme de rachat massif de dettes jusqu'à fin mars 2017 au lieu de fin septembre prochain. Et voilà comment il s'en est justifié, Mario Draghi.
The question then was, have they been effective enough?
La question était, est-ce que le programme de soutien a été suffisamment efficace? Les objectifs d'inflation que nous nous étions fixés ont-ils été atteints? Notre réponse est pas assez, donc nous devons faire plus. Je vais être très clair, nous faisons plus non parce que c'est un échec, mais parce que ça marche. Nous voulons renforcer quelque chose qui est un succès.
We are doing more because it works, not because it fails. We want to consolidate something that's been a success.
Oui, alors c'est un peu nous consolidons le succès. Apparemment, ça marcherait. Jean-Noël Vieille, on vient d'entendre Mario Draghi, qui estime qu'il faut prolonger le programme de rachat de dette, mais sans en faire davantage chaque mois. Justifié ou pas?
Parce que si on regarde comment les marchés ont réagi, c'était pas vraiment ça qu'on attendait.
On va le dire, les marchés, ils ont réagi en fort recul aujourd'hui. Paris, moins 3,5%. Francfort, moins 3,5%. On a eu Londres qui a perdu un petit peu plus de 2%. Si on regarde du côté de l'Italie, moins 2,5%. Milan, l'Espagne, Madrid, moins 2,4%. Jean-Noël.
En ce qui était en cause, c'est pas tellement le fondamental. La croissance, on sait ce qu'elle est. Elle va être entre un 5 et un 6 l'année prochaine. Donc c'est des croissances assez modérées. Est-ce que vraiment le QE participe à cela? Ça reste à démontrer. La Fed n'a jamais démontré il n'y a jamais eu de chiffrage vraiment réel pour savoir si les actions des banques centrales avaient vraiment un impact sur la croissance.
Maintenant, vous mettez un peu en cause, parce que quand on écoute Mario Draghi cet après-midi, c'est Benaoud Abdelhaim qui faisait les commentaires cet après-midi avec Grégoire Favet, il mettait en avant donc ce relèvement des prévisions de croissance de la zone euro. Mario Draghi, 1,5% cette année, 1,7% l'an prochain, 1,9% en 2017, et s'il n'y avait pas ça, il y aurait un point de moins de croissance. Alors?
Oui, je crois que c'est pas ce qui est
exagéré.
C'est totalement exagéré. Bon. On sait qu'à quoi correspond cette croissance. C'est en grande partie l'effet de la baisse des matières premières, notamment le pétrole. Et le deuxième grand poste qui a joué au niveau de la croissance européenne, c'est la baisse de l'euro, qui favorise effectivement les exportations. Une fois qu'on a enlevé ça, ça compte pour à peu près un point. Mais moi, je voudrais donner un peu un coup de gueule, parce que ce qui a influencé les marchés, c'est pas tellement ces décisions, c'est qu'en fait il y a eu tellement de communication, et moi je dirais qu'en tant qu'investisseur, on en a marre que la BCE et même la Fed communiquent à tout moment. Les entreprises, elles sont aujourd'hui contrôlées dans leur communication. Vous avez eu la BCE qui a communiqué pendant tout le mois par des gens différents, etc., en disant on va en donner. Aujourd'hui, ils n'étaient pas au rendez-vous. Il y a les paroles et il y a les actes. Aujourd'hui, les actes n'étaient pas au rendez-vous, puisque l'anticipation était beaucoup plus forte que ça sur la plupart des thématiques. Donc le marché, aujourd'hui, boude un peu. Est-ce que c'est fondamental? Non, parce que la croissance est quand même là, et je pense qu'on va rester dans une dynamique intéressante en Europe. Mais ce qui est vraiment désagréable, c'est ça, c'est cette espèce de communication à outrance qui nous pénalise et qui nous empêche de faire notre métier.
Puis on reviendra aussi sur les annonces aussi du FT aussi. C'est un petit peu semé le trouble aujourd'hui. Philippe Tibi, vous vous demandiez dans une récente note que vous avez écrite pour Pergamon Campus, donc l'école de dirigeants que vous dirigez, que vous avez créée, Philippe, si Mario Draghi pouvait sauver l'Europe. Alors lui prétend que oui, quelque part, quand on l'écoute cet après-midi.
Si, il s'est un peu mis dans cette situation, et c'est une ambiguïté qui lui est reprochée par un certain nombre de membres de son conseil. La BCE n'est pas en responsabilité sur la croissance. Le mandat de la BCE, c'est la stabilité des prix. Et la raison pour laquelle il a pu vaincre les réticences des Allemands, des Baltes et des Finlandais, et peut-être des Nordiques, c'est de lui faire constater que l'inflation était à zéro, voire même qu'on était en déflation. Donc il a pu engager ce programme, qui est un programme hétérodoxe et contraire à toutes les conceptions en vogue, notamment à la Bundesbank, sur ce motif. Et évidemment, le marché a compris que c'était une façon de stimuler la croissance. C'est vrai, parce que il y a un autre volet de l'action de la BCE qui n'est pas seulement de la stabilité des prix, mais de donner une politique, de faire converger une politique monétaire dans toute l'Europe. La BCE, c'est une institution européenne. Elle a donc un mandat d'intégration des politiques monétaires en Europe. Et ce qu'on constatait avant le quantitative easing, donc avant janvier ou mars 2015, c'est que il y avait des taux beaucoup plus élevés en Italie, en Espagne qu'au cœur de l'Europe, en France et en Allemagne. Et donc, il y avait un problème de financement pour les entreprises qui était situé dans ce pays. De ce point de vue, et je pense qu'il a raison, le quantitative easing, c'est un succès. C'est-à-dire que les taux en Italie ont baissé, les taux en Espagne ont baissé, les encours de crédit pour les entreprises ont monté, ce qui n'était pas gagné, notamment pour l'Italie. Donc de ce point de vue, c'est un succès, c'est un échec. C'est un échec pour l'inflation, parce que l'inflation est toujours à zéro, ce qui lui donne le droit de continuer. Mais
il annonce 1% en 2016, alors que la prévision donnait, encore il y a un an, 1,3% pour l'an prochain et 1,6% en 2017.
Hein. Oui, les prévisions de la BCE ont été infirmées. Parce que ce sont aussi des prévisions politiques qui servent à justifier ces opérations de massives. C'est de montrer aussi aux sceptiques que cette politique va faire monter l'inflation. Elle n'a pas fait beaucoup monter l'inflation, elle a eu beaucoup d'autres effets bénéfiques, ça a fonctionné, mais pour la croissance c'est un problème politique, c'est de politique économique, c'est pas un problème monétaire. La politique monétaire ne crée pas de richesse, c'est la politique économique qui peut en créer.
Bon, alors les conditions de financement donc s'améliorent, en tout cas pour certains, relance de l'offre de crédit. Bernard Cadot est avec nous, le président de Orpi. Bonsoir, allez-y.
Moi, je comprends bien l'aspect déceptif là de ces mesures après les promesses qui avaient été faites. Sur un plan purement économique, puisqu'on parle d'économie, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne et que cette épargne ne vient pas massivement sur l'économie réelle, et notamment que ça soit l'industrie ou l'industrie du logement. Il y a des besoins, il y a de l'épargne. Et entre les deux, je pense qu'il y a un manque de confiance qui fait que ceux qui pourraient être des investisseurs dans notre domaine, acheter des logements pour les mettre sur le marché et les louer par exemple, hésitent encore. Je crois qu'il y a un problème de confiance aussi, et peut-être de lisibilité dans l'ensemble de ces mesures. Il y a eu beaucoup de valses hésitations ici ou là, qui font qu'il manque encore cet aspect de confiance. La reprise de la croissance, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle, forcément. Mais encore un pas à franchir pour que, globalement, nos épargnants puissent se dire « je peux aller sur le marché du logement en toute tranquillité ».
Qu'est-ce qui leur manque ?
Non, mais je pense que sur les prix, je vais pas vous être désagréable, mais je pense que les prix de logement sont des prix élevés. Donc aujourd'hui, on peut s'endetter facilement à 1,9% sur 10 ou 15 ans. Donc c'est pas le problème du crédit aujourd'hui. C'est facile, en tout cas en France, c'est facile de s'endetter lorsque on présente des garanties, évidemment. C'est facile de s'endetter. Simplement, on a des prix qui sont élevés, et les gens le savent. Mais je crois que le problème de la reprise, ça ne sera pas créé par la BCE. La BCE peut faire en sorte que le crédit soit accessible. Ensuite, il y a un problème de réforme structurelle, comme on dit, et il y a un problème d'allocation, là je vous rejoins, il y a un problème d'allocation de l'épargne vers l'investissement productif. Et là, on a un énorme problème en Europe. On a un énorme problème parce que l'épargne n'est pas dirigée vers l'investissement des entreprises, l'investissement des infrastructures, et donc effectivement, on a une croissance qui est atone et on est le continent malade du monde aujourd'hui.
Oui, mais le rôle des banques, justement, c'est intéressant aussi, Jean-Noël Vieille, parce que parmi les décisions, les annonces faites aujourd'hui par le président de la Banque Centrale Européenne, il y a l'abaissement à moins, je parle bien de moins 0,3% contre moins 0,2% auparavant du taux de dépôt au jour le jour. C'est quoi ? C'est inciter les banques à mettre de l'argent dans le circuit de l'économie. Quelque part, c'est faire profiter le reste de l'économie de l'argent qui dort dans les banques.
Exactement, puisque le côté extrêmement positif donc de cette politique accommodante quand même, qui aide quand même un peu à la croissance, c'est d'avoir des taux extrêmement bas. Ça, c'est le premier volet qui a plutôt bien fonctionné, et là-dessus, on va donner un satisfecit à la BCE. Ce qu'elle a voulu faire là, mais la déception venait que on s'attendait plutôt à moins 0,40 venant de moins 0,20. Là, ils ont fait moins 0,30. Donc c'est quoi? C'est effectivement le fait d'empêcher les banques qui ont du cash d'aller les déposer à la Banque centrale qui les rémunérerait donc avec un taux encore plus négatif pour essayer effectivement de relancer le crédit. Alors c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal parce qu'effectivement, on a bien vu que le crédit repartait un petit peu depuis 3-4 mois, y compris en France. Donc on a l'impression que ça refonctionne un petit peu. Maintenant, ça ne refonctionne pas quand même suffisamment pour que, et on sait bien, après il y a toutes les problématiques de solvency, de régulation des banques en termes de prise de risque, qui aujourd'hui, moi je considère que c'est plutôt ça qu'il faudrait corriger. Corriger un peu plus les marges de manœuvre des banques, parce qu'aujourd'hui, elles n'acceptent pas de prendre le risque, et c'est pas en leur faisant ça, d'ailleurs, que ça va beaucoup s'améliorer. Il faudrait qu'à un moment donné, ce qu'on a fait avec Solvency et Bâle 3, qu'on soit moins restrictif en matière de crédit.
Solvency, Bâle 3, toutes les normes qui pèsent sur le secteur bancaire, le secteur de l'assurance également. Bernard Cadeau, Orpi.
Oui, il y a effectivement une sorte de paradoxe entre, d'un côté, inciter les banques à distribuer plus de crédits et de l'autre côté des normes qui sont assez drastiques et contraignantes et qui sur le terrain bien font que des projets immobiliers ne se réalisent pas parce qu'il n'y a pas le montant fatidique de cet apport personnel, etc., etc. Oui, je crois qu'il y aurait un réglage à faire ou en tout cas un parallélisme des formes à trouver là-dedans.
Philippe Tibi.
Les normes ont été créées, ont été en tout cas mises en place au lendemain de la crise. Au lendemain de la crise financière. Donc, il fallait réformer les banques. Donc, on peut le comprendre. Mais la réalité aujourd'hui, et spécialement en Europe, parce que l'Europe fait toujours mieux que les autres continents, c'est qu'on est extrême, spécialement dans le secteur des assurances, parce que le vrai poumon de l'économie, en tout cas en termes d'allocation d'equity, d'actions et de financement, c'est le secteur de l'assurance. Et le secteur de l'assurance est inhibé. C'est-à-dire qu'on encourage les gens, ces institutions, à acheter des obligations d'État, ce qui quand même est un vrai problème. Donc la difficulté du succès de la politique de Mario Draghi, c'est que succès relatif, c'est que on a des taux qui sont extrêmement bas. Ces taux ne vont pas assez dans l'investissement productif. Et ils vont là où ils ne devraient pas aller. Et d'une certaine façon, ils permettent au gouvernement de ne pas procéder aux réformes qu'il devrait faire, puisque Mario Draghi a défendu l'euro. Il a défendu l'euro.
C'est ce que vous demandiez. Là, en effet, dans cette note, toujours, je citais de Pergamon Campus, donc cette politique mise en place donc depuis le début de l'année 2015, de rachat massif de dettes, c'est quels effets secondaires? Quel rôle pour les gouvernements et qu'est-ce qu'il faut surveiller maintenant, Philippe Tibi?
Je pense qu'il faut surveiller. Enfin, en matière de marché, il faut toujours être vigilant puisque là, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que les marchés sont soumis à une bulle. C'est-à-dire qu'on a des taux d'intérêt qui sont aussi bas. Il est difficile de penser qu'ils vont baisser encore plus, sauf s'il y a un vrai problème économique, donc des problèmes de remboursement. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'on est dans un domaine dangereux. Et c'est pour ça que les marchés sont aussi... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles les cours de bourse sont aussi volatiles. Mais je pense qu'il faut surveiller, c'est la façon dont les gouvernements vont prendre en compte la crise profonde que l'Europe traverse aujourd'hui. Parce que je crois que Mario Draghi a sauvé l'euro, maintenant il faut sauver l'Europe. C'est plus compliqué. On le voit avec la crise des migrants, on voit avec le référendum britannique, on voit avec la montée des partis anti-Europe. Et donc ça, c'est, je pense qu'on rentre dans une ère de volatilité politique ou géopolitique qui est extrêmement dangereuse. C'est ça, à mon avis, qu'il faut surveiller en premier.
Et là, il était assez désemparé. C'est ce que me racontait tout à l'heure Benaoud Abdedaïm, qui a suivi vraiment seconde par seconde la conférence de Mario Draghi. Il a émis donc des inquiétudes à la fois sur la situation des réfugiés, des migrants, et puis sur le terrorisme qui menace partout en Europe. On ne sait pas quel effet ça peut avoir, disait-il, laissait-il entendre, un peu désemparé quand même. Jean-Luc, oui, inquiétant ou pas?
Oui, c'est inquiétant, mais ce qui est intéressant sur 2016, on a l'impression que les cartouches ont peut-être été toutes brûlées. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et je dirais que ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a peut-être une autre réflexion à avoir qui va un petit peu dans le sens de ce que disait Philippe, c'est est-ce que le fait qu'il n'a pas totalement tout délivré par rapport à ce qui avait été communiqué, est-ce qu'il n'y a pas des tensions à l'intérieur de la BCE? On sait qu'il y a quand même un front, on va dire, nordique, l'Allemagne y compris.
Les décisions de cet après-midi n'ont pas été prises à l'unanimité. Oui. La décision a été prise à une large majorité. Donc, on ne pouvait pas en faire davantage.
Je pense que c'est ça. Le problème maintenant, c'est que les Allemands, les Autrichiens, enfin, on sait très bien qu'ils sont plutôt dans une situation beaucoup plus défensive et moins accommodante que, on va dire, les Latins. Et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui. Et comment, maintenant, il va pouvoir gérer ça en 2016, ça va peut-être être beaucoup plus compliqué. Donc, on va peut-être avoir moins d'attentes, en tout cas, je parle au niveau des marchés financiers, de ce que va faire la Banque Centrale Européenne, parce qu'elle n'a peut-être plus, il n'y a plus de munitions, quoi, parce qu'il n'y a pas un consensus pour le coup politique.
Philippe Thibault, Pergamon Campus, et puis juste après, Bernard Cadeau qui nous dira justement s'il peut y avoir des... Voilà, quel état d'esprit en ce moment dans ce contexte un petit peu d'insécurité, de terrorisme, quand on achète des logements? Allez-y, Philippe.
Oui, ou bien on peut prendre la vue inverse, qui consiste à dire, bon, après tout, comme il l'a dit, la politique de la BCE a été un succès relatif, mais un succès, donc il n'y a pas besoin, pour parler trivialement, d'en faire des tonnes, et il y a beaucoup de dangers devant nous, toujours des dangers qui ne sont pas strictement monétaires, mais qui peuvent nécessiter des actions d'éclat, je dirais, et à ce moment-là, on garde un peu de poudre, et la poudre supplémentaire, on sait ce que c'est d'augmenter le rythme des achats au-delà de ce qui est pratiqué aujourd'hui, c'est-à-dire 60 milliards par mois.
Oui. C'est-à-dire que là, la décision de Mario Draghi, c'est d'étendre le programme, mais sur le temps, sur la durée.
Pour ancrer la perception que nous sommes là, il n'y aura pas de remise en cause, il y a peut-être des dissensions, mais ces dissensions ne sont pas majoritaires, d'autant plus que il y a des problèmes techniques de vote qui font que tous ces partisans n'ont pas pu voter aujourd'hui. Donc on ancre le fait que le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, est validé, est là pour plus longtemps, fait partie du paysage, et on garde la poudre. C'est la vision optimiste qu'on peut avoir. Donc les marchés en ont une aujourd'hui, parce que je pense qu'il y avait énormément de spéculations, et comme l'a dit Jean-Noël, il y a eu beaucoup de fuites et une communication défectueuse. Ce qui est un peu le problème des banques centrales depuis l'été, c'est de perdre un peu de crédibilité en parlant de façon moins sereine qu'elles faisaient. Les banques centrales, c'est quand même ce qui guide les marchés, un, par la parole, et deux, parce qu'elles maîtrisent complètement la courbe des taux aujourd'hui. Elles fixent les taux courts, et elles manipulent, entre guillemets, les taux longs, puisqu'elles achètent ce qui se présente.
Bernard Cadeau, oui, on parlait de ce contexte un petit peu particulier, justement, ces attentats, post-attentats, c'est pas fini, avec toujours une menace terroriste très très forte. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit des acheteurs, des futurs acheteurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent, là, depuis quelques semaines maintenant, vous, à la tête du réseau Orpi?
Alors, les événements tragiques du 13 novembre ont fait que les acquéreurs qui étaient sur des biens haut de gamme parisiens ont eu un mouvement d'arrêt et de recul. Mais je pense que ça sera temporaire. Il y a eu cet effet-là, ça a été brutal, mais ça sera temporaire. Après, sur l'ensemble du marché, nous, chez Orpi, on finira l'année à autour de plus 15% en volume. Il y a une véritable appétence pour le logement, il y a un besoin. Il y a toujours ce déséquilibre crucial entre l'offre et la demande, et des besoins de logement. On est beaucoup moins dans une logique de placement qu'on peut l'être dans d'autres domaines. Et le besoin de se loger existe. Les modes de vie, les familles recomposées, les mutations, les déplacements, etc. créent et génèrent ce besoin qui soutient le marché. Comme on le disait tout à l'heure, taux bas, mais contraintes réglementaires qui font que certains de nos clients n'ont pas suffisamment accès au marché, mais globalement un marché qui est sain, des fondamentaux qui sont sains.
Encore deux questions pour terminer. L'euro qui s'est apprécié également, comme on l'explique, Jean-Noël Vieille, 360 XSAM.
Oui, c'est d'ailleurs un petit peu surprenant quand même, parce que on s'attend quand même, on n'en a pas parlé, mais à un relèvement des taux de la Fed. Là, c'est quasiment acté. Donc, si ça déçoit là-dessus, je ne sais plus.
Quand c'est la semaine prochaine ?
C'est le 16.
Le 16 décembre, d'accord, dans 10 jours. Oui.
Donc, c'est bientôt. Logiquement, donc avec ce qu'a fait la BCE, ça n'aurait pas dû. Enfin, je trouve que le mouvement 3% de hausse sur le l'euro-dollar, c'est quand même beaucoup. À mon avis, on doit revenir. C'est quand même le consensus. On doit revenir assez vite. Alors, je ne sais pas si on ira à la parité, mais on devrait quand même être pas très loin de la parité à un moment donné. C'est ce que dit à peu près le consensus.
1,09 ce soir, Philippe Thibich.
Et avant que la BCE n'entame ces nouvelles pratiques, l'euro était à 1,35, 1,40. Donc on est dans un tunnel entre 1,05 et 1,15. Donc le travail était fait. Plus personne aujourd'hui ne parle des difficultés européennes qui seraient causées par la parité. Et d'ailleurs, il y a eu un petit effet sur la croissance, il n'y a pas eu un effet énorme. Donc c'était aussi un problème qui était, je dirais, survendu, entre guillemets, par ceux qui cherchent toujours des solutions simplistes à des problèmes compliqués.
Dernière question, la communication aussi. Polluée aujourd'hui par les annonces du FT, le grand quotidien financier économique, qui affirmait pendant quelques minutes que la BCE maintiendrait sa politique inchangée. Jean-Noël Vieille,
oui,
c'est un petit peu le désordre.
Oui, bien sûr, il y a eu des tweets juste avant l'annonce qui a donné de la volatilité au marché. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça devient un peu insupportable avec ces nouveaux réseaux qui interviennent même là, c'est pas très logique. Mais après,
vous ne tweetez pas, vous, Jean-Noël, hein?
Non.
Vous ne tweetez pas. Ah, Philippe Thibi, justement, et puis Bernard Cadeau aussi, Orpi, voilà, et puis nous aussi, évidemment, l'équipe des décodeurs de l'écho. C'est pas fini, restez avec nous. Je vais remercier Bernard Cadeau à la tête du réseau immobilier Orpi, Philippe Thibi, le fondateur du Pergamon Campus, son école pour dirigeants d'entreprise, et puis Jean-Noël Vieille, directeur de la gestion chez 360 Xens AM. Dans un instant, est-ce que Tapie peut être ruiné, donc, après l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui lui dit, bah, écoutez, maintenant, faut rendre les 400 millions d'euros qu'on vous avait donné, que l'État vous avait donné au moment de l'arbitrage. Et ben voilà, justement, on va se demander pourquoi. Beaucoup de questions encore avec les décodeurs de l'écho qui reviennent dans un instant, tout de suite sur BFM Business, à la télé, à la radio.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.